Alors, nous nous retrouvons avec Élodie Richard. Rebonjour Élodie Richard.
Bonjour.
Alors, nous parlions de surdité et de rapport entre déficience auditive acquise et éventuellement évolutive, liée à l'âge par exemple, et puis les processus cognitifs et les choses qui se dégradent, qui n'ont rien à voir a priori avec l'audition, mais pourtant si. Alors, on a peut-être fait un tableau un peu sombre dans la première partie de l'entretien, mais j'imagine que vos travaux contribuent aussi, en prenant ne serait-ce que la mesure de l'impact de ces déficiences auditives, qui n'est pas juste un problème de communication, il y a une prévention qui peut se développer.
Tout à fait. L'idée, c'est effectivement de ne pas entraîner la peur chez nos auditeurs, loin de là. Au contraire, l'idée, c'est de faire plutôt de la prévention. Quand on connaît et qu'on comprend les mécanismes, on fait en sorte de pouvoir les éviter. Donc ce lien entre perte auditive et perte cognitive est finalement assez récent. Ça fait une quinzaine d'années que les scientifiques sont vraiment penchés sur le sujet. Il y a encore beaucoup à faire, effectivement. Les liens de causalité, par exemple, on ne sait pas du tout si chez les personnes sourdes, on va dire les sourdes de naissance, il y a une prévalence plus augmentée des maladies neurodégénératives. Il y a tout un travail à faire de ce côté-là. Mais effectivement, là, le cœur finalement de notre métier aujourd'hui, ça va être de faire de la prévention en montrant que c'est important de se faire dépister, que chercher des solutions le plus rapidement possible peut aider en fait à ce que justement ces pertes cognitives n'apparaissent pas. Je citerai par exemple l'application Aura, H-O-R-A, qui est sur le site de la Fondation pour l'audition, qui permet à nos auditeurs en fait de tester eux-mêmes leur audition et de voir un peu où est-ce qu'ils se situent sur le spectre. Bien sûr, ça ne se substitue pas aux professionnels de santé. J'engage tous les gens à aller se faire dépister s'ils jugent qu'ils ont des problèmes d'audition. Aujourd'hui, les systèmes d'appareillage, d'implants cochléaires par exemple, sont beaucoup plus performants qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, même s'il reste encore à perfectionner ses appareillages, ils permettent aux gens de retrouver une audition très acceptable et de pouvoir justement lutter contre cet isolement social dont on parlait juste avant.
Mmh. Oui, vous dites sur le dépistage précoce, j'ai envie de réagir à ça, parce que enfin, je parle d'expérience, si je puis dire, parce que j'ai pas été très... Je me suis pas précipité pour des appareillages.
Comme beaucoup.
Et il y a... mais je l'avais déjà entendu, vous parlez d'un plan cochléaire.
Là, il s'agit
des... Il y a eu des gros débats sur ces questions-là, parce que des laboratoires ou des fabricants en faisaient la promotion, c'était miracle, vous serez plus sourd du jour au lendemain. Bon, c'est pas tout à fait ça. Et puis, ça exige un très long apprentissage et une très longue adaptation. Parce que de rien entendre à tout d'un coup entendre, le cerveau doit complètement se reconfigurer.
Alors, effectivement, et là, on fait appel à la plasticité cérébrale, il ne faut pas négliger tout le processus de rééducation auditive, que ce soit sur un simple appareillage classique qui, en fait, amplifie le son et permet de mieux entendre, ou, effectivement, tous les systèmes d'implants cochléaires, qui sont loin d'être la solution miracle également. On peut faire un implant seulement dans certaines conditions bien spécifiques. Aujourd'hui, on n'a pas encore la solution pour tous les types de surdité. Mais effectivement, la rééducation auditive, elle se fait avec des orthophonistes, elle se fait avec des audiologistes. Il y a tout un corps de métier, en fait, qui est autour de cette rééducation, qui permet de réapprendre à entendre et qui joue effectivement sur la plasticité cérébrale, donc cette capacité extraordinaire de notre cerveau à se remobiliser et se reconstruire pour pouvoir en fait passer outre certains dommages qui lui ont été infligés.
Voilà, mais plus on tarde, moins la plasticité est grande du cerveau ou...
Il vaut mieux...
Est-ce que c'est quelque chose dont on a la certitude ou est-ce que c'est une hypothèse encore ?
Alors, il n'y a pas de certitude. Il y avait des études qui montraient qu'à partir de 20 ans, on perdait déjà des neurones. En fait, on se rend compte que c'est un petit peu différent. Tout ça, il y a encore beaucoup de laboratoires qui travaillent effectivement sur les mécanismes de plasticité. Mais j'aurais tendance à dire qu'effectivement, plus on s'y prend tôt, plus on le fait jeune, meilleur sera le résultat final.
Mmh, oui, les audioprothésistes disent si vous portez... vos appareils qu'occasionnellement, vous n'allez jamais vous y habituer.
Non, effectivement, et ça fait partie notamment des choses qui sont mises en avant. Donc là, le 12 mars, il y a eu la journée nationale de l'audition, pendant laquelle a été présenté le plan national grand âge et surdité. Et c'est justement un des aspects, un des axes sur lequel il va falloir travailler, tout à chacun, c'est sur justement l'utilisation adaptée de ces appareillages, parce qu'il faut le porter fréquemment, il faut bien l'entretenir. Il y a tout un aspect à faire sur ce côté-là, en fait.
Oui. Alors, c'est intéressant parce que vous ouvrez sur une autre dimension, je dirais sociétale et puis de santé publique.
Tout à fait.
Hein. C'est vrai on sait, voilà, il y a une surdité qui vient avec l'âge. Hein, vous appelez
la presbyacousie.
Presbyacousie, voilà. Ce qui fait penser à presbytie pour la vue. Hein.
Tout à fait.
C'est les mêmes radicaux du grec, je pense. Donc. Ça, on le sait, il y a un vieillissement de la population, donc c'est quelque chose qui s'amplifie. Mais je me souviens depuis quelques années en tout cas, on dit, mais il y a une surdité qui se développe chez les jeunes du fait de pratiques culturelles, d'écoute de ce qu'on appelait Walkman à l'époque, mais bon, avec des baladeurs en toutes sortes, avec de la musique un peu fort dans les oreilles. Il y a des avertissements, tous les fabricants mettent des avertissements maintenant. Est-ce que c'est quelque chose dont l'ampleur se confirme ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, selon les chiffres, un Français sur quatre de plus de 18 ans est atteint de perte auditive. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Évidemment, il y a les raisons génétiques, comme j'ai parlé tout à l'heure, les raisons environnementales, mais l'exposition au bruit, notamment avec les casques ou les enceintes trop fortes, sont un risque surtout chez les jeunes populations. Donc on fait aussi un effort de sensibilisation auprès des jeunes pour qu'ils comprennent les impacts de ces expositions au bruit, parce que une fois que notre audition est atteinte, dans certains cas, il n'y a pas de solutions qui peuvent se présenter. Puisque l'exposition au bruit entraîne en général une perte des cellules sensorielles. Et ces cellules sensorielles, aujourd'hui, on ne sait pas les faire repousser, on ne sait pas les remplacer. Donc c'est très important de faire de la prévention également auprès des jeunes, puisque cette exposition au bruit est un véritable problème sociétal.
Oui, d'accord. Donc toutes ces cellules sensorielles, c'est une perte définitive. C'est ce qu'on disait des neurones, on relativise un petit peu aujourd'hui, mais il y a un capital au début de vie, et puis après, ça se dégrade.
On est avec environ 16 000 de ces cellules neurosensorielles, qu'on appelle les cellules ciliées, et effectivement, une fois qu'elles sont endommagées, une fois qu'elles sont mortes, aujourd'hui, on ne sait pas les remplacer. Donc il faut préserver ce capital et je pense que quel que soit finalement l'âge, que ce soit chez les jeunes ou les personnes âgées, il faut avoir conscience que notre capital auditif est très important et fait partie de notre problème de santé globale en fait, puisque une perte auditive va avoir des répercussions dans différents aspects de notre vie.
Alors, voilà, on a déjà un bien balayé toutes ces questions-là. Et du coup, votre laboratoire travaille, j'imagine, aussi sur ces possibilités de rénovation, de restitution ou quelque chose. Il y a des recherches en ce sens-là ?
Il y a des recherches dans ce sens-là. Effectivement, il y a eu beaucoup de recherches sur tout ce qui était restauration de ces cellules ciliées. Aujourd'hui, les deux axes majeurs seraient plutôt... Enfin, l'axe majeur, j'ai envie de dire, c'est plutôt la thérapie génique, sur lequel il y a énormément de recherches, notamment à Montpellier. Une des biotechnologies de Montpellier est novatrice dans cet aspect de thérapie génique. Et puis après, il y a des recherches sur les applications plus médicamenteuses, en fait, pour tout ce qui est atteinte au bruit, la prise de médicaments qui ont des répercussions autotoxiques, donc qui vont mener vers une surdité. Donc là, c'est ces aspects-là qui sont au cœur des recherches.
Donc les recherches ne sont pas finies pour les personnes qui souffrent de ces pathologies, on peut parler de pathologies, même si elles sont normales, entre parenthèses, pour certaines d'entre elles, y a un peu d'espoir.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Merci beaucoup de toutes ces précisions, Elodie Richard. Et puis, votre laboratoire fait des choses très intéressantes. Notre micro vous est ouvert en d'autres occasions pour parler de ces recherches très sensibles, c'est le cas de le dire.
Je vous remercie.